Aujourd'hui, je suis assez joie, car je vais enfin vous parler de mon réalisateur préféré. Pour beaucoup, leur réalisateur ou réalisatrice préférée découle d'un profond amour des films que ces personnes réalisent. Ce qui est aussi le cas pour moi, car j'adore les films qu'ils réalisent, mais ce n'est pas tout. Il y a bien une raison si j'aime autant ces films, c'est parce qu'il a une façon bien particulière de filmer. Chacun de ces films d'animation se démarque par sa façon de réaliser, se rapprochant plus d'un film en prise de vue réelle, en plus d'écrire des scénarios intéressants et bien fichus. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui, je vais vous parler de Brad Bird. Brad Bird, donc, est un réalisateur américain, né en 1957 dans le Montana. Il réalise son premier film d'animation, une adaptation du Lièvre et de la Tortue très jeune, avant ses 15 ans. Ce qui lui permet d'être remarqué par Milt Kahl. C'est une personne qui faisait partie des Nine Old Men, qui est le nom qui a été donné aux 9 animateurs qui ont travaillé sur la plupart des chefs-d'œuvre des studios Disney, de Blanche-Neige à Bernard et Bianca, rien que ça. Par la suite, il a étudié à la California Institute of Arts, ou CalArts, qui est une université privée située en Californie, et où ont étudié de grands noms de l'animation qui seront à l'origine du second âge d'or de Disney et de la renommée de Pixar. C'est d'ailleurs là-bas que Brad Bird rencontrera John Lasseter, futur réalisateur de Toy Story et président de Pixar. Avant d'intégrer la compagnie à la lampe sautillante, il participa à la réalisation de plusieurs épisodes des Simpsons au tout début de la série animée. Puis réalisa pour Warner Bros. Le film Le Géant de Fer, immense succès critique mais échec commercial à cause de la mauvaise gestion marketing de la part de la Warner. Il fut donc ensuite engagé par Pixar, chez qui il fera Les Indestructibles et sa suite, ainsi que Ratatouille. Il ne se limitera pas qu'à l'animation puisqu'il réalisera deux autres films en prise de vue réelle, le quatrième volet de la saga Mission Impossible, Protocole Fantôme, ainsi que À la poursuite de demain. Il est connu pour avoir des collaborateurs réguliers, notamment le compositeur Michael Giacchino, qui a réalisé la musique de tous ses films, excepté Le Géant de Fer, et c'est pour ça que vous entendez ses compositions en fond de cette chronique, enfin sauf celle-ci qui est tirée du Géant de Fer. Voilà pour la courte partie biographique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est sa façon de réaliser et d'écrire ses différents films. Cela va être le cœur de cette chronique, commençons sans plus tarder avec son premier long-métrage, Le Géant de Fer. Sorti en 1999, Le Géant de Fer raconte l'histoire d'un enfant se liant d'amitié avec un robot géant d'origine extraterrestre et un artiste beatnik en pleine guerre froide. Premier et seul long-métrage d'animation en deux dimensions de Brad Bird, celui-ci commence déjà à implémenter son style de réalisation très particulier. Bien qu'il travaille avec la technique d'animation, il va garder les codes de la réalisation en prise de vue réelle pour son film, en privilégiant des cadres aérés et vastes, là où la plupart du temps, les cadres étaient concentrés sur le ou les personnages à animer. Brad Bird va aussi commencer à expérimenter un plan qu'il utilisera énormément dans ses autres films, le plan 1, 2, 3. Celui-ci consiste à d'abord filmer un personnage ou une situation, puis changer de point de vue, en filmant autre chose, et diriger la caméra vers un troisième endroit pour terminer le plan, le tout sans interrompre le plan ou couper la caméra. Cela lui permet d'écrire une petite histoire dans un même plan avec un début, un milieu et une fin. Je vais vous en présenter les exemples quand je parlerai de ses autres films, puisque c'est après l'échec commercial du Géant de Fer que Brad Bird va se faire embaucher par Steve Jobs pour travailler chez Pixar, car ce dernier avait peur que le studio s'enferme dans une forme de complaisance après leur récent succès, Toy Story 1, Mille et une pattes, Toy Story 2. L'objectif de Brad Bird était donc de secouer un peu l'arbre Pixar. Là-bas, il va pitcher l'idée d'un film d'une famille de super-héros indestructibles. Brad Bird avait l'idée de ce film depuis le début des années 90. Il était même censé le réaliser avec la Warner. Mais à cause de l'échec du Géant de Fer, il s'est retrouvé chez Pixar et a proposé l'idée à Lasseter, qui a tout de suite été emballé. Bird voulait un film qui rendait hommage aux films d'espions et aux comics de son enfance, donc des années 60. Que racontent les Indestructibles ? Eh bien, le film commence avec la tombée en disgrâce des super-héros à la suite de procès qui ont coûté cher à la ville qui les emploie. 15 ans plus tard, on retrouve Bob et Helen Parr, anciennement Monsieur Indestructible et Elastigirl, qui ont formé une famille de 3 enfants possédant eux aussi des pouvoirs. Malheureusement, la monotonie et le manque d'entrain du quotidien poussent Bob à reprendre son activité en tant que justicier la nuit. Très vite, le passé va le rattraper et va obliger sa famille à reprendre la vie super-héroïque. Ce film a été une première fois pour tout le monde. Première fois pour Pixar de produire un film avec un seul réalisateur qui est aussi scénariste. Là où tous les autres films de la compagnie avaient pour habitude d'avoir plus de deux scénaristes sur chaque projet. C'était aussi la première fois qu'il faisait un film ayant pour personnages principaux des humains, après des jouets, des fourmis, des monstres et des poissons. Enfin, c'était la première fois que Brad Bird et son équipe travaillaient avec l'animation 3D. Il leur a donc fallu effectuer la transition sur cette nouvelle technique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on retrouve pas le style de Brad Bird qu'il avait commencé à développer dans son film précédent, avec son fameux 1, 2, 3. Un exemple avec une des scènes qui a été l'une des plus compliquées à animer. Dans cette scène, Bob discute dans sa voiture avec son ami et ancien collègue super-héros Frozone. Ils parlent ensemble du bon vieux temps, comme des personnes normales.
Et là, plus ça va, plus je meurs. Encore un rayon de la mort et c'est réglé. Je me retrouve au cimetière. Finalement, je me mets à couvert. Et tu sais ce que fait le baron Fonte Tordue ?
Il se lance dans un monologue.
Il se lance dans un monologue ! Et quel crétin ! Il avait préparé un speech comme quoi je faisais pas le poids par rapport à lui parce qu'il allait évidemment m'écraser. Après quoi, le monde lui appartiendrait, etc. Un vrai boulin à parole. Ce mec me tient à sa merci et il me déballe ses états d'âme.
Norman, 3 minutes. On a
23-56, c'est un vol à main armée.
Oh, quelle tristesse.
Super. Tu veux qu'on intervienne ?
Non. Et je vais te dire un truc. Je préférerais faire un bowling. Écoute, pour une fois, si on faisait vraiment ce que nos femmes croient qu'on fait, hein ? Rien que pour le fun.
Le 1, 2, 3 commence assez lentement. Frozone raconte son histoire avec le baron Fonte Tordue. La caméra tourne autour de Bob, gardant le visage de Frozone au centre de la vision. C'est un plan assez long dans lequel on peut admirer le travail des animateurs. Quand la caméra a le visage de Bob dans le champ, elle s'arrête soudainement, et c'est là que la radio fait un bruit. Toujours dans le même plan, la caméra va suivre le regard de Bob, dont l'attention a été captée par la radio. Donc, plan 1, Frozone parle. 2, Bob apparaît son visage apparaît dans le champ de vision de la caméra, et la radio fait du bruit. 3, la caméra bouge rapidement sur la radio, devenant le centre de l'attention. Cette scène fut assez complexe pour les animateurs, alors qu'elle est toute simple. Ce sont juste deux hommes qui discutent dans une voiture. Et c'est exactement pour ça qu'elle a été assez difficile. Les animateurs avaient pour travail de la rendre la plus crédible possible, et comme la caméra est calme, on a le temps de regarder et de détailler chaque mouvement des personnages. Ce système du 1, 2, 3 permet d'avoir une réalisation dynamique sans pour autant la surcharger de coupes, donnant un ensemble digeste et aéré, ce qui est d'autant plus efficace dans les films d'action comme celui-ci. Concernant l'histoire, Brad Bird a écrit les personnages de la famille Parr intelligemment.
On s'attend toujours à ce que le père soit fort, donc je l'ai fait fort. Les mères sont constamment tirées dans un million de directions différentes, donc j'ai fait en sorte qu'elles s'étirent comme du caramel. Les adolescents, surtout les jeunes filles, sont pleins d'insécurité sur la défensive. Donc celle du film peut devenir invisible et créer des champs de force. Les garçons de 10 ans sont généralement de grosses boules d'énergie hyperactives. C'est pour cela que celui de la famille est super rapide. Enfin, les bébés sont des potentiels qu'on ne connaît pas encore. Donc Jack-Jack n'a supposément pas de pouvoir.
Et c'est comme ça que le film arrive à parler à tout le monde, en créant des archétypes avec leurs forces et leurs faiblesses. Par exemple, Bob est super fort, mais sans sa famille, il n'est plus rien. Il tire sa force bien plus de ses proches que de ses pouvoirs. Un dernier point sur la musique, puisqu'il s'agit de la toute première collaboration avec le compositeur Michael Giacchino, qui signala sa toute première composition pour un gros long métrage. Brad Bird voulait pour ce film une musique rappelant les vieux films d'espions à la James Bond avec un son rétro-futuriste. Il avait d'abord pensé à John Barry, surtout connu pour avoir composé la musique des tout premiers James Bond. Mais comme celui-ci ne voulait pas refaire quelque chose qu'il avait déjà fait 30 ans auparavant, Bird donna une chance à Giacchino, et Dieu merci, puisqu'il s'agit, selon moi, de sa meilleure partition et de la meilleure bande originale de Pixar. On retrouve les cuivres caractéristiques de la musique des années 60, par exemple la musique d'Henry Mancini pour La Panthère Rose ou de John Barry, cuivre que Giacchino réutilisera pas mal ensuite. Pour cette musique, il a voulu mixer la musique donc différemment de celle des films contemporains, allant même jusqu'à simuler un système datant des années 60-70, et c'est ce qui donne ce grain si particulier à la musique. Bird réitérera le succès 3 ans plus tard, toujours chez Pixar, avec Ratatouille, film racontant l'histoire de Rémi, un rat qui a un goût pour la vraie cuisine et dont le rêve est de devenir cuisinier. Avec ce film, le réalisateur prend tout ce qu'il a appris sur les indestructibles et les applique sur un nouveau projet. On a à nouveau une réalisation qui s'amuse, qui va chercher des angles impossibles à faire en prise de vue réelle, notamment ceux suivant le rat à travers les égouts, les combles de Paris et les cuisines du restaurant. Et on retrouve toujours les gimmicks de Brad Bird avec son fameux 1, 2, 3. Sa façon de faire reste tout de même assez proche du live, avec une caméra qui fait tellement réel qu'on se demande si on regarde vraiment l'animation créée de toutes pièces, ou si c'est de la motion capture comme pouvait l'être Avatar, même si Avatar c'est 2 ans plus tard. Cette caméra proche du réel lui a permis d'effectuer une transition sans problème vers la prise de vue réelle, avec le 4e volet de la Mission Impossible et À la poursuite de demain. Dans cette incursion dans le monde réel de la vérité véritable avec des acteurs en chair, en os et en gros cachet, il met à profit ce qu'il a appris en animation, en gardant sa réalisation joueuse et son gimmick, d'autant plus important dans des films d'action comme Mission Impossible, car la scène peut se dérouler en 1. Problème, par exemple un ennemi qui fait face au gentil, 2. Objet permettant la résolution, un pistolet à terre, 3. Solution, le gentil récupère le pistolet et se débarrasse de l'ennemi. Là où un réalisateur de films classiques le ferait en 3 plans coupés, Bird le fait en un seul. Il retourna à l'animation en 2018 avec la suite des Indestructibles, en appliquant ce qu'il avait appris lors de son incursion dans le monde réel de la vérité véritable, avec des plans toujours plus dynamiques et aérés, nous en mettant plein la vue. Car l'animation ne l'empêche pas de faire le film qu'il veut, au contraire, ça l'encourage. Il se sert de cette technique pour réaliser tout ce qu'il ne peut pas faire avec une vraie caméra. C'est ce qui rend ses films si uniques et appréciables. Pour lui, l'animation n'est pas un genre, d'ailleurs il déteste qu'on appelle ça un genre. C'est une technique, une façon de faire qui permet de faire des films. Avec l'animation, on peut faire plein de choses. Un film d'horreur, un film d'action, un film pour adultes. Mais on ne peut pas faire un film d'animation avec de l'animation. Ça n'a aucun sens. Et c'est avec ce mot d'ordre que Brad Bird a réussi à se faire une place parmi les plus grands réalisateurs d'animation. Et c'est pour ça que j'aime autant ce qu'il fait. Il ne cherche jamais à faire un film avec des codes particuliers, autres que les siens. En animation, on a tendance à être au plus près de l'action avec des moments assez cutés pour qu'il y ait du mouvement. Paf, je vais utiliser une réalisation proche de la prise de vue réelle et utiliser les coupes que quand c'est vraiment nécessaire. Et c'est cet état d'esprit que j'aime dans sa réalisation. Et c'est pour cela que j'ai voulu en parler aujourd'hui. Sur ce, je vous conseille les films réalisés par Brad Bird, surtout Les Indestructibles qui est selon moi le meilleur Pixar. Portez-vous bien, salut.